Chapitre 35. Ivres de colère et débordants d'énergie, les défenseurs d'Ildakar se sentaient invincibles. Après des heures d'attente, ils chargèrent comme un ressort qui se détend, en d'autres termes, avec une incroyable violence. À leur tête, les sorciers montés débordaient de confiance. Comme prévu, la superbe armée fronça vers les compagnies adverses cantonnées au pied des collines. La première ligne, composée de gardes et de gladiateurs, fonçait derrière Nietzsche qui tendait déjà un bras vers ses cibles. Avec ses cheveux blonds hérissés, elle faisait penser à un esprit vengeur. N'ayant jamais chevauché, même pour ses loisirs, Elsa avait ordonné qu'on confie sa monture à un combattant compétent. Par solidarité, Nathan avait décidé de jouer lui aussi les fantassins.
« Je resterai près de toi, très cher, et ensemble nous serons une bonne équipe. Mon don étant revenu, je te protégerai. »
Elsa coula un regard sceptique à son chevalier servant.
« Me protéger ? Ce sera inutile, Nathan. Si nous unissions plutôt nos forces, histoire de faire deux fois plus de dégâts, tout en nous protégeant mutuellement si le besoin s'en fait sentir. Une excellente idée, très chère. »
L'ancien prophète et son ami furent emportés par une vague d'attaquants. Comme quand il combattait avec l'armée de Richard, Nathan sentit son cœur se gonfler de fierté. Une partie de ses doutes sur l'opération balayée, il resta assez lucide pour savoir que son euphorie ne durerait pas. Une fois le combat engagé, l'inquiétante réalité reprendrait le dessus. De constitution fort peu athlétique, Elsa ne manquait pas de courage et elle était incroyablement résistante. Comme Nathan, elle se mit au pas de course pour ne pas se faire distancer par les autres guerriers. L'épée du prophète n'avait pas quitté son fourreau. Pour l'instant, le vieil homme entendait se battre comme un sorcier. Levant la main gauche, il plia les doigts et sentit la magie s'accumuler dans son bras. Dans la plaine semée de hautes herbes, les soldats d'Outros avaient allumé une pléthore de feux. De loin, on aurait pu croire à d'inoffensives lucioles, mais chacun de ces points lumineux représentait une centaine de guerriers ennemis. Prenant conscience de ce que signifiait ce spectacle, Nathan souffla.
« Pour un peu, j'en resterai sans voix. J'ai déjà livré des batailles désespérées, mais pas face à une telle horde. »«
Tu ne t'es jamais battu à mes côtés, mon ami !»
cria Elsa pour couvrir le vacarme des attaquants.
« Ils vont voir de quel bois on se chauffe !»
Après avoir observé le camp du haut des créneaux, les membres du Douma avaient décidé de viser exclusivement les assaillants positionnés sur le flanc nord de la vallée. Tandis que les guerriers d'Ildakar franchissaient les derniers pas qui les séparaient de leur cible, les hommes d'Outros réagirent. « Très calmement, » constata Nathan, que ce développement ne ravissait pas. Sans s'affoler, les soldats guidés par des officiers tout aussi sereins formaient des lignes défensives. À la vitesse de l'éclair, des estafettes étaient déjà en route pour avertir toutes les compagnies du danger. Partout, des torches s'allumaient et la défense s'organisait. Dans le lointain, Nathan distingua le quartier général, où Nietzsche et lui avaient rencontré Outros. Aujourd'hui, cette charge héroïque ne s'enfoncerait pas jusque-là. Sur son destrier, Nietzsche bombardait de lances de feu les premiers rangs ennemis. Un de ses projectiles embrasa une série de tentes faites de briques et de brocs et propulsa dans les airs des dizaines de soldats. Également adepte de la magie soustractive, l'ancienne maîtresse de la mort ajoutait à ses éclairs des volées de pointes noires dévastatrices. Juste derrière elle, Auron, Damon et Quentin recouraient à des points d'air plus classiques mais tout aussi meurtriers. Comme des quilles, les soudards d'Outros tombaient avec un bel ensemble.
« Pour Ildakar !»
crièrent les attaquants survoltés. Si la première ligne défensive avait cédé très vite, la deuxième se révéla bien plus coriace. Épaule contre épaule et bouclier levé, les soldats de pierre érigèrent une herse horizontale de lames avec leurs épées. Emportés par leur élan, les premiers attaquants s'écrasèrent contre cette muraille humaine. Des gardes, des gladiateurs, des morassites et Bannon engagèrent le combat contre les hommes de pierre. Comme prévu, ça se révéla plus ardu qu'on aurait pu le croire.
« Ne tardons pas à les rejoindre, très cher !»
lança Nathan. Invoquant une sphère de feu de sorcier, il attendit d'avoir un angle de tir dégagé, inutile de blesser ou de tuer Nietzsche et les autres, pendant qu'Elsa faisait naître entre ses mains une boule de feu conventionnelle. Une arme moins impressionnante mais dont les flammes brûleraient avec autant d'ardeur. Par sécurité, Nathan fit décrire une large ellipse à son projectile, histoire qu'il ne retombe pas sur ses alliés. Au niveau de la quatrième ou cinquième ligne adverse, le feu mortel explosa tel une nova, entraînant dans la mort plus d'une centaine de guerriers. Consumés par des flammes que rien ne pouvait éteindre, ils moururent dans de terribles souffrances. La boule de feu d'Elsa explosa non loin de celle de Nathan. Moins destructrice, ces flammes ajoutèrent quand même à la panique de l'ennemi. Pour un début, ça se présentait plutôt bien. Après ce premier succès, Nathan toucha de nouveau son Han et sentit battre dans sa poitrine un peu de la colère assassine du dresseur en chef Ivan. Cette présence étrangère lui déplut souverainement, mais il puisa quand même dedans pour générer une boule de feu de sorcier encore plus puissante. Cette fois, des centaines de soudards furent mortellement touchés. Courageux mais indisciplinés, les soldats d'Ildakar se jetèrent sur des ennemis surpris et déstabilisés. Contre toute attente, leur fougue parvint à ouvrir une brèche dans la muraille humaine qui leur faisait face. Les éclairs de Nietzsche continuant à faire mouche, les autres sorciers, encouragés, multiplièrent les attaques. Visant particulièrement les tentes, Elsa en fit flamber des dizaines, carbonisant dans le même temps les guerriers qui essayaient de se replier. Puisant dans des réserves d'énergie qu'ils ne se connaissaient pas, Nathan invoqua une troisième boule de feu de sorcier qui fit encore des centaines de victimes. Malgré ses succès initiaux, le vieil homme ne se faisait pas d'illusions. Au bout du compte, l'attaque aurait à peine entamé les défenses ennemies. Mais l'essentiel n'était pas là. Pour accentuer ce qui serait avant tout une victoire psychologique, il faudrait voir plus grand et faire bien plus de dégâts. Alors que le feu de sorcier continuait à se répandre dans les rangs d'Outros, Nathan s'avisa qu'une manœuvre très simple pouvait mettre en danger une plus grosse partie de l'armée de pierre. Entre Elsa et lui, réaliser son plan serait un jeu d'enfant.
« L'herbe sèche sur les collines !» cria Nathan. « Elle brûlera comme de la paille, puisque le vent souffle dans la bonne direction. L'incendie se répandra dans tout le camp !»
La magicienne d'Ildakar n'eut pas besoin d'un dessin.
« Nos adversaires ne parviendront pas à le contenir !»
Les deux mains tendues, Elsa commença à allumer des feux sur les collines. Trop concentrée, elle ne vit pas le soldat qui fonçait vers elle, épée levée pour la fendre en deux dans le sens de la hauteur.
« Non !»
cria Nathan. En une fraction de seconde, il invoqua un bouclier d'air que le soudard percuta comme s'il s'agissait d'un mur de pierre. L'épée arrachée des mains, le type s'écroula. Furieux qu'il ait osé s'en prendre à sa tendre amie, Nathan le réduisit en bouillie avec un point d'air. Comprenant qu'il venait de lui sauver la vie, Elsa remercia le vieux sorcier d'un hochement de tête, puis elle recommença à bombarder les collines de flammes. Un globe de feu de sorcier dans chaque main, Nathan les lança aussi haut que possible. Tels des comètes jumelles, ils illuminèrent le ciel puis s'abattirent à leur tour sur les collines. Cette fois, l'enfer se déchaîna. Au début, l'ennemi accorda peu d'attention aux versants en feu. Certain que ça ne durerait pas, Nathan jubila de voir que tout ça brûlait effectivement comme de la paille. En outre, il ne s'était pas trompé sur le vent qui poussait les flammes vers le camp. Tout sourire, le vieil homme regarda sa compagne.
« Pas si mauvais que ça, mon idée, pas vrai ? Au lieu de te vanter, suis-moi. J'ai aussi un tour dans mon sac et tu pourrais m'être utile. »
Elsa s'enfonça dans le camp, loin du cœur actuel du combat. Nathan devina en gros où elle voulait en venir, mais il ne trouva pas l'idée très judicieuse. Alors qu'ils avaient espéré isoler leur cible, des renforts arrivaient déjà de partout.
« Pas par là !»
cria-t-il.
« On ne peut pas !»« Au contraire, tu verras. La magie de transfert, tu te souviens ? J'ai créé des ancrages en ville !»
Elsa accéléra le pas, et l'ancien prophète ne put se résoudre à la laisser partir seule.
« Si tu le dis !» « Après tout, nous sommes convenus de nous protéger mutuellement. »
Quand elle eut atteint une zone très piétinée, Elsa s'arrêta et sonda le sol, comme si elle cherchait quelque chose d'enfoui. Tendant un index, elle le braqua sur la terre puis commença à courir en rond. Nathan la suivit, le souffle court.
« Que fais-tu donc? Et en quoi puis-je t'aider ?»«
En protégeant mes arrières. Ne laisse personne m'attaquer pendant que je dessine ma modélisation. »
« T'as quoi ?»«
Ma rune de transfert !»
Tandis que la magicienne courait, une sorte de lame de pouvoir se déversait de son index, traçant dans le sol un motif complexe. Passant et repassant sans cesse dessus, Elsa compliqua de plus en plus son dessin.
« C'est une forme de sortilège !»
s'écria Nathan.
« Non, une rune de transfert. Je t'ai déjà montré ça. »
Inquiet, Nathan étudia le groupe de soldats qui fondait désormais sur sa compagne et lui. Apparemment, les guerriers de pierre n'y voyaient pas très bien la nuit, ce qui excluait le recours à des armes de jet, mais à la lueur de leurs torches, ils étaient quand même fichus d'encercler une cible.
« Ils arrivent !»
lança Nathan.
« J'espère que tu sais ce que tu fais. »
« J'ai tout prévu, oui. La rune d'ancrage, à Ildakar, est dessinée sur un réservoir qui contient des dizaines de milliers de litres d'eau. »
Sans essayer de comprendre dans le détail ce que prévoyait de faire la magicienne, Nathan bombarda de feux de sorcier les soldats qui menaçaient de gâcher la fête. Le premier rang n'y survécut pas, mais des centaines de soudards le suivaient. Continuant à protéger Elsa, le vieux sorcier multiplia les points d'air et les lances de flammes.
« J'ai presque fini !»
annonça la magicienne en désignant le motif géant qu'elle venait de tracer. L'ennui, c'était le presque. Dans quelques secondes, l'ennemi serait là.
« C'est bon !»
cria Elsa. Alors que les soldats entraient dans le périmètre de son dessin, elle se baissa et traça l'ultime ligne qui compléterait la rune et activerait le sort, quel qu'il soit.
« On s'éloigne en vitesse !»
lança la magicienne. Quelques secondes plus tard, l'eau du réservoir, transférée depuis la cité, transforma en sable mouvant la surface occupée par la rune. Rang après rang, les soldats d'Outreau s'enfoncèrent dans ce bourbier et disparurent. Nathan soupira de soulagement.
« Très cher, je n'aurais pas dû douter de toi. »
Elsa contempla son œuvre, un immense cimetière, puis tourna la tête vers les collines qui continuaient à brûler.
« C'est vrai, Nathan, tu n'aurais pas dû. »